Je ne sais pas si vous avez remarqué, Annick Baliry, bonjour d'abord.
Bonjour Philippe.
Mais ça y est, déjà depuis cette année, un petit moment, les feuilles commencent à perdre leur couleur verte pour avoir des couleurs absolument magiques. C'est vrai que l'automne est magique.
Ah, alors savez-vous comment ça se passe ?
Alors j'ai appris que c'était la sève qui partait et surtout ce qui le rend vert, c'est le...
La chlorophylle.
La chlorophylle, voilà, qui redescend et donc effectivement, ça perd ce
côté.
C'est
bien, vous êtes bon élève. Hein,
ah oui, mais
je refais l'explication quand même pour ceux qui auraient perdu le fil. En fait, au moment où le froid arrive, il y a une petite peau qui se développe à la base des pétioles des feuilles et c'est ce qui fait qu'après ça va tomber parce qu'en fait, il va y avoir une cicatrisation et la feuille ne va plus tenir à l'arbre. Une petite peau qui se forme et qui empêche la sève d'arriver jusque dans la feuille.
D'accord.
Et dans le même temps, il y a aussi la disparition de la chlorophylle. Et la disparition de la chlorophylle, elle est d'autant plus complète et d'autant plus intense que les nuits sont froides. Donc les hivers, les automnes où vous avez des nuits très froides, vous allez avoir des couleurs éclatantes parce que toute la chlorophylle aura été évacuée. Et il ne restera plus que de la carotène. Et oui.
Et c'est pour ça
qu'il y a des anthocyanes, ce qui colore les tomates.
Ah,
voilà.
Et c'est ce qui permet d'avoir ces couleurs un peu rougeoyantes, orange, rouge des feuilles.
Voilà. Si vous reste une pointe de vert, vous aurez des couleurs qui seront beaucoup moins éclatantes. Alors vous n'allez pas le voir le vert, mais vous savez, c'est comme quand on fait les mélanges là, qu'on est petit. Là,
oui.
Si on touille du vert et du orange, on se retrouve avec du marron, quoi. Et voilà.
Et cette année, l'automne est particulièrement précoce puisque on a déjà. Des nuits un peu fraîches.
Oui, oui, c'est vrai. Alors, on parle d'une goutte froide. J'aime bien la goutte froide
oui.
Qui descendrait du nord.
Mais qui a l'air de se plaire ici puisqu'elle reste depuis un petit
voilà,
moment.
C'est ça.
Goutte froide. On va parler donc effectivement de l'automne. Et l'automne au jardin, parce qu'en fait, il y a toujours des trucs à faire au jardin.
Alors, déjà, le nettoyage... Alors, moi, je dis toujours, un jardin, ce n'est pas une salle de bain. Attention, on nettoie, mais il y a des limites. Alors, la première chose, si vous avez les haricots qui sont fanés, on a pu semer des haricots jusqu'à mi-août. Hein, ça fait partie des dernières dates parmi lesquelles on peut les mettre en place, surtout dans les coins où il fait très chaud. Là, les journées sont un petit peu plus courtes, il y a un peu plus de fraîcheur. Ma maman semait ses derniers haricots le 15 août, voilà.
D'accord.
Et donc, si vous avez des haricots qui sont en fin de
oui,
course,
vous étiez dans une région chaude, vous, quand même.
Voilà, c'est ça, ouais. Du côté de Nîmes.
Voilà.
Mais bon, il y a d'autres régions qui sont pas mal aussi, et le Lot-et-Garonne, entre autres.
Ouais.
On n'arrache pas les haricots, on laisse les racines en place. Pourquoi on laisse les racines en place ? Parce que le haricot, c'est un mécanisme épatant, il est capable d'attraper avec ses petites feuilles, alors je le fais mais vous ne le voyez pas, avec ses petites feuilles dans l'atmosphère l'azote, de l'envoyer dans ses racines. Dans les racines, il y a une coopération avec ce qu'on appelle des mycorhizes et il y a des boulettes d'azote qui se forment sur les racines. Donc si vous arrachez la racine, vous enlevez tout ce qui va pouvoir servir l'année prochaine, si vous laissez tout en place. À l'endroit où vous avez eu les haricots, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle les légumes feuilles. Alors, ça peut être des épinards, ça peut être des blettes.
Ouais.
Et vous aurez dans le sol déjà tout ce qu'il faut pour donner à manger sans avoir besoin de dégainer ni de l'engrais ni du fumier. Voilà. Donc, ça, première étape. Après, vous avez tout ce qui est au verger aussi. Alors, le verger, cette année, on a eu... beaucoup de production sur les prunes et sur les pêches tardives. Et malheureusement, il y a des arbres qui ont cassé. Donc, ça va être aussi le moment de scier proprement les branches qui ont été abîmées et de passer du cicatrisant dessus.
D'accord.
Veillez à ne pas trop laisser de fruits pourrir sur place. Souvent, vous avez des fruits qui tombent et qui sont véreux. Alors, on appelle ça des vers. Mais quand on regarde l'intérieur et qu'on examine bien la bestiole, on se rend compte en fait que ce sont des chenilles. Les vers n'ont pas de pattes et les petites bébêtes qui sont à l'intérieur des fruits, ce sont des chenilles. Donc si vous les laissez sur place, la chrysalide va être formée dans le sol et l'année prochaine, vous allez avoir plein de papillons qui vont de nouveau parasiter vos plantes. Donc, soit vous donnez les fruits véreux aux poules qui vont se charger de dire deux mots aux chenilles. Soit vous les évacuez un peu loin, soit vous les emportez au compost. Enfin, débrouillez-vous quand même pour que ça ne reste pas trop sur place. Ça évitera une autocontamination pour l'année prochaine. Alors, si vous avez trop de fruits, pensez à en distribuer. Il y a toutes sortes d'associations qui sont contentes de voir arriver des fruits. Parce que, bon, ce qu'on offre souvent, ce sont des denrées sèches et des nouilles, du riz.
Des produits frais, il y en a beaucoup moins.
Voilà. Donc, pensez-y aussi. Et ça peut être sympathique.
C'est un peu l'inconvénient d'un jardin, c'est que souvent, tout arrive en même temps et de façon massive, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et donc ça, c'est voilà, on a fait un peu profiter les voisins, les amis, mais la famille, mais penser aussi effectivement.
Voilà, à faire un petit cajot et le porter à une association, ça peut être intéressant. Ça. On peut pas imaginer le bonheur qu'ont les gens qui ont pas trop l'habitude de manger du fruit frais, en plus bio, en provenance d'un jardin familial.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, pensez aussi, pourquoi pas, à conserver des noyaux. Enfin, moi, je m'occupe depuis plusieurs années d'une grénothèque, mais c'est vrai que les noyaux de fruits, surtout les noyaux de pêche qui font un arbre productif en peu d'années, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça permet de conserver des vieilles variétés qui sont exemptes de cloques et qui vont pouvoir donner des fruits vraiment rustiques sans aucun traitement. Alors, ici, ce qui vient bien, donc nous, ici, on est dans les Hautes-Pyrénées, mais ce qui vient bien, c'est ce qu'on appelle les pêchers de vignes. Mmh. Alors, pourquoi de vignes? Parce que souvent, on les plantait en bordure des vignes et que pendant qu'on faisait les vendanges, on allait croquer une ou deux pêches pour se rafraîchir et c'était bien sympathique.
Elles ne sont pas un peu plates, c'est...
Non, alors on confond avec une pêche ancienne qui s'appelle la pavie. La pavie, c'était une pêche qui existait déjà au temps de François Ier, la bataille de Pavie. Hein. Et donc, c'était une variété qu'on a redécouverte, mais qui est une variété qui est très, très ancienne. Dans les pêches de vigne, ce sont souvent des pêches de petit calibre qui arrivent en quantité sur un arbre et qui peuvent être soit sanguines, c'est-à-dire avec une chair qui va être rouge, mais profondément, un joli rouge, ou qui vont être blanches, il y a un peu les deux.
Elles sont sucrées ?
Ah oui. Voilà. Mais disons que le jour où vous mangez des pêches comme ça, qui sont très bonnes, et qu'on vous dit, on m'a donné un petit arbre, tout ça, ça vaut la peine de garder les noyaux, de semer les noyaux, et d'essayer d'avoir un exemplaire dans le jardin.
Il faut en planter plusieurs, ou parce qu'ils ne vont pas tous...
Alors, on peut, c'est un peu comme les enfants, hein. Vous en plantez trois, il y en a un qui va être très vigoureux, puis un autre un petit peu moins. C'est bien d'en planter plusieurs et de choisir en fait celui qui va être le plus résistant pour le mettre en place. L'intérêt aussi de ces variétés, c'est qu'elles sont tardives. Donc, les fleurs vont arriver après les gelées de printemps.
Oui.
Ce qui explique que les fruits sont là en automne. Et puis, le débourrage, c'est-à-dire l'arrivée des feuilles, va être tardive aussi. Et ce qui est un avantage dans le cas des pêches, parce que humidité plus froid font que se développe un champignon, qui est le champignon de la cloque. Et vous avez des feuilles qui deviennent boursouflées, rouges, et qui en fait tombent parce que le champignon les abîme. Et c'est quelque chose qui apparaît en dessous de 20 degrés. Donc plus la feuille arrive tard, et plus en fait la plante est résistante.
D'accord. Voilà. D'accord.
Donc moi à la Grénothèque, je collectionne les noyaux, je fais des petits baluchons et puis les gens après ils font leurs expériences. Et puis si vous connaissez des gens qui ont des pêchers comme ça, ce qui se passe aussi c'est que vous avez des plantations qui se font toutes seules et au printemps vous avez des petits sujets qui démarrent et vous pouvez aussi vous faire donner un petit arbre qui est déjà grandé comme on disait chez moi.
Et il faut combien de temps entre on plante un noyau et on commence à récupérer des fruits?
Alors le pêcher, c'est très rapide. Je crois qu'au bout de 3 ans déjà, vous pouvez commencer à avoir les premiers fruits.
D'accord.
Alors c'est un arbre qui pousse très très vite, mais qui par contre a une durée de vie qui est limitée. Ça va durer, je dis, 15-20 ans, pas plus, quoi. Hein. C'est beaucoup, c'est le problème sur les abricotiers, c'est pareil. Hein. Ça met à fruit très vite. La plante, en fait, elle fait beaucoup de fruits parce qu'elle est là pour se perpétuer.
Et ce sont des arbres qui poussent haut, qui prennent la place?
Alors, ça va être à vous aussi de limiter la hauteur. On préconise, alors là, je vous propose d'aller voir un peu sur les sites, on préconise une taille de printemps de façon à garder des sujets assez bas et à ce que qu'il y ait de l'espace entre les branches, justement pour éviter les problèmes de cloques.
Et un maximum de soleil qui traverse.
Voilà, quoi. Exactement. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous taillez au printemps, vous taillez des branches sur lesquelles il y a des boutons de fleurs, vous les rentrez à l'intérieur et là, vous vous faites du bouquet japonais. Là, c'est formidable. Vous avez les pêchers qui vont s'ouvrir à l'intérieur. C'est très, très beau. Alors, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas rabattre tardivement un pêcher, c'est-à-dire s'il est déjà très haut. Si vous avez envie de le rabaisser en faisant une taille basse, ça va pas marcher parce que sur le bois vieux, il n'y a aucune branche qui va se former. Donc, il faut vraiment chaque année essayer de le maintenir à des distances raisonnables. En fait, souvent, la taille qui est la plus jolie chez le pêcher, c'est ce qu'on appelle en fleur de l'iseron. C'est charmant. Hein. Voilà. C'est-à-dire une taille très évasée, basse et très, très évasée. Voilà. Avec un départ de branche qui est bas. Alors, petite astuce que j'ai vue aussi sur les sites par un monsieur qui s'appelle Dusserf. Et monsieur Dusserf, c'est quelqu'un qui est très, très pointu pour reconnaître les plantes endémiques dans une prairie et vous faire un diagnostic en vous disant, ah ben tiens, il y a telle plante, alors le sol, il est argilo-siliceux, il a été piétiné, enfin, c'est formidable ce qu'il fait. Et lui, il a découvert un peu par hasard comment soigner ses pêchers de la cloque. Alors, c'est quelqu'un qui fait son pain. Et il rinçait les bassines et comme apparemment il était dans un coin où les plantes ont soif, au lieu de jeter la bassine avec le reste de pâte à pain dans l'évier, il allait arroser ses arbres avec. Et il avait arrosé un pêcher qui était à côté de la maison et le pêcher s'est retrouvé indemne de cloques. Alors, il a dit, tiens, c'est curieux, c'est bizarre. Donc il a eu l'idée de renouveler l'expérience avec d'autres pêchers et apparemment ça marche. Donc je vous le livre comme il le donne lui, mais ça peut être un truc. Donc à vous de... Alors si vous n'êtes pas fan de pâte à pain, il y a quand même moyen peut-être chez son boulanger d'acheter une boule de pâte à pain. Enfin, ça, voilà. Il doit y avoir des combines.
Des combines. Merci beaucoup Annick Baléry. Voilà un petit tour au jardin pendant cet automne. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir. Au revoir Philippe.